Bonsoir. La traversée. La traversée de Lucien Bertolina et Gilbert Racina. Une émission sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954, avec ce soir le docteur Guy Amsalem. Docteur Guy Amsalem, bonsoir.
Bonsoir.
Pied-noir d'origine, vous êtes né à Mostaganem. Oui. Et vous êtes appelé sous les drapeaux le 1er janvier 60. Vous allez incorporer les élèves, l'école des élèves officiers de réserve pour devenir médecin aspirant, puisque vous êtes médecin. Je voudrais d'abord que vous nous disiez pourquoi, malgré un bon classement, vous avez choisi en 62 de servir en Algérie comme médecin aspirant.
Oui, en fait, avant d'être appelé au service militaire en 1960, j'étais quand même d'Algérie. J'étais donc un enfant du pays. Je suis né à Mostaganem, j'ai fait toutes mes études à Mostaganem, j'ai passé mon bac à Mostaganem, j'ai fait mes études médicales à Alger. Donc pour moi, l'Algérie, c'était mon pays. Donc il n'y avait aucun autre choix possible pour moi. Je ne voulais pas aller, comme tous les EOR qui sortaient bien classés, là, choisir la Polynésie ou choisir l'Allemagne pour faire mon service militaire. J'estimais que je devais aller en Algérie, d'autant que ma famille y était, ma femme y était. Donc, j'étais jeune marié, j'avais un mois de mariage, je m'étais marié en novembre 59. Donc, il était normal que je retourne en Algérie. Pour moi, ça ne posait aucun problème.
Vous viviez à Mostaganem.
Oui, nous vivions à Mostaganem. C'était une petite ville près d'Oran, à 80 km d'Oran. C'est un petit port de commerce qui était au centre d'une région viticole et qui travaillait. Il y avait 63 000 habitants. C'est une petite ville avec une population. Je pense qu'il y avait un tiers de Français pour deux tiers de musulmans, puisque c'est comme ça qu'on disait, hein. Donc, et c'était alors qu'Oran était plutôt avec une population étrangère qui était plutôt d'origine espagnole. Oran, c'était espagnol.
Oui, Oran est à côté, voilà.
Oran était à 80 km.
Voilà. Est-ce que vous avez à ce moment-là une idée de la France? Vous aviez déjà, avant de faire l'armée, est-ce que vous étiez déjà venu en France?
Je connaissais mal la France. Pour moi, je ne connaissais que Marseille, ville de passage, mais j'étais très peu venu en France. Je ne connaissais pas la France. J'ai découvert la France bien après.
Donc il y a un sentiment un peu général chez beaucoup de Pied-Noirs. En fait, ils ne connaissaient pas du tout la France. Il y avait
Non, on ne connaissait pas la France. On n'avait pas besoin de venir en France. On était très bien là-bas. On n'avait pas besoin de venir.
Vous avez eu pourtant des rencontres, des gens qui revenaient de France, des lectures.
Oui, on allait à Paris. En général, c'était plutôt Paris pour passer des fêtes, passer un Noël, des choses comme ça. On allait à Paris. Hein. Voilà. Mais c'était... C'était très, très rare, hein, parce qu'on avait tout à Alger, on avait tout ce que la France pouvait nous donner, on l'avait sur place, hein, il n'y avait aucun problème.
Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un certain détachement à l'égard de la France? J'entends la métropole, hein, je ne parle pas de l'idée de la
France.
Oui,
je dis même qu'il n'y avait pas seulement un détachement, il y avait même un hiatus entre les deux, il y avait un fossé entre la France et l'Algérie. Hein, c'était... Ils ne nous comprenaient pas, nous ne les comprenions pas, hein, c'était une incompréhension mutuelle, quoi.
Et ce sentiment, vous le ressentiez dire, beaucoup
de je l'ai ressenti tout au long des événements. Et même après, une fois rentré en France, je m'aperçois qu'on n'a rien compris au problème des pieds noirs, hein, c'est tout. Et au problème de l'indépendance. Hein.
Lors des débuts de la guerre, la Toussaint Rouge, pardon, vous comprenez immédiatement ce qui se passe?
En 54, avant même 54, donc vous parliez de 54.
54, je parle.
54, j'étais étudiant, j'étais lancé dans les études médicales. Hein, j'avais une vingtaine d'années, je suis né en 32, donc j'avais 24, 22 ans, 23 ans, j'étais en pleine étude. J'étais à la cité universitaire, j'étais un peu loin des événements. Bon, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, quelque chose de grave qui changeait, mais je crois que j'ai été plus absorbé par les études que par la vie politique.
Et autour de vous, les étudiants
Pas trop, parce qu'on était dans un contexte un petit peu préservé. On était en cité universitaire, on vivait à la cité universitaire, on était entre nous, donc on parlait peu des événements. Si on se rendait compte qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait, hein, ça, parce que ça a frappé tout le monde, on s'est dit, bon, ben, y a des problèmes que la France va régler. Voilà, c'est tout.
Il y a quelques instants, vous alliez faire allusion à d'autres événements qui ont précédé 1954.
Ben oui, quand on, voilà. En, à Sétif en 1945, voilà, tous ces événements-là, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se préparait, quelque chose qui bougeait. Un mécontentement, peut-être une grogne sous-jacente, quoi. Voilà.
Sétif, c'est 10 ans avant.
C'était 10 ans avant, voilà. Oui. Mais là, j'avais encore 12 ou 13 ans. Enfin, j'étais encore bien plus jeune, hein, à ce moment-là. Hein. Mais on avait pris conscience qu'il y avait quand même des problèmes qu'il fallait peut-être régler. Et on avait, à ce moment-là, mis des espoirs dans certains membres du gouvernement. On avait cru que Mendès France, on avait cru que... comment s'appelait l'autre, Soustelle, enfin tous ces gens-là ont apporté un petit peu de réconfort en disant on va régler tous ces problèmes, quoi. On pensait que ça allait se régler d'une façon pacifique et sans effusion de sang, quoi.
Donc c'est important, il y a une trace dans les mémoires à la fois d'événements douloureux.
Oui.
De part et d'autre, mais c'est type quand même, le général Duval dira... je vous laisse tranquille pendant 10 ans, mais il faudra trouver une solution. La répression a été dure.
J'ai pas été tenu au courant, je ne sais pas. On n'a pas suivi tellement ces choses-là. Hein. Je vous dis, à 22 ans, on est en deuxième ou troisième année de médecine, on s'accroche plus aux études, hein, qu'à la politique.
Et ensuite, il y a quand même une réflexion qui est faite sur une nécessité concernant les réformes. Est-ce que ça tient... à vous, ou cet espoir est dans le cœur de beaucoup de gens?
Vous parlez de quelle période à ce moment-là?
Alors, entre au début des années 54, au moment où vous commencez vos études.
Oui, au tout début, on ne comprend pas trop. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas pourquoi il y a un mouvement, pourquoi il y a une révolte qui gronde. On ne comprend pas très bien, parce que nous, on a vécu dans ce pays, on a vécu avec les musulmans, on a vécu avec, au moins à la cité universitaire, mes copains, j'avais des copains musulmans qui vivaient avec nous, et il n'y a jamais eu la moindre friction, le moindre éclat de voix, le moindre parti pris. Hein. Mon ami Amraoui faisait des études d'anglais, et j'avais, je crois même que j'ai été à l'université, enfin à la cité universitaire, avec des gens qui ont été après des notables dans le gouvernement algérien. Donc on a fait nos études ensemble, mais il n'y avait jamais rien à la cité universitaire. C'était quelque chose de totalement fermé et protégé, quoi.
C'est pourtant pas une surprise complète, les événements.
Ça s'est fait petit à petit, vous savez, ça c'est une des choses que l'on voit au jour le jour, on note qu'il y a un petit événement à droite, puis après un deuxième événement, un troisième événement, et petit à petit on s'habitue même à ces événements, hein. Ça, il n'y a plus l'effet de surprise. Hein.
Vous dites que vous étiez étudiant en cité universitaire, est-ce qu'il n'y avait pas un problème, à savoir que beaucoup d'Algériens d'origine française, si je peux dire, de Français donc, ne connaissaient l'Algérie que ce qui se passait dans les villes. Dans les campagnes, c'était tout de même différent. En tant que futur médecin, vous deviez avoir une idée de cela.
Les campagnes, c'est quoi les campagnes? Les campagnes, c'était les environs. On vivait à Mostaganem, c'était une petite ville. Hein. C'était pas une ville qui était très européanisée. Il y avait quand même une grosse population musulmane. Le quartier de Tijdit était un quartier à 5% musulman. Hein. Le quartier de Saint-Jules, tout ça, c'était des quartiers qui étaient très, très occupés par les populations musulmanes. Donc on vivait avec les musulmans. On ne se rendait pas compte qu'il pouvait y avoir une différence entre le bled et la ville. On n'avait pas conscience de ça, quoi, en tout cas. Enfin, moi, je n'ai pas eu conscience, en tout cas. Hein. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une différence notable entre les villages et les villes. Maintenant, je ne vivais pas au village, c'est sûr. Hein. Donc, je ne peux pas savoir comment ça se passait.
Vos professeurs de médecine, vous parlez de la situation dans les campagnes, ne serait-ce que pour une
hygiène
sociale.
En médecine, moi, j'ai fait de la médecine un petit peu partout. J'ai été médecin d'abord dans les hôpitaux à Alger. Donc on avait une grosse clientèle hein, qui était musulmane, hein, forcément. Il y avait ensuite, j'ai fait en tant que militaire de l'AMG, c'est-à-dire je montais dans les meshtas, soignais les familles, les nouveau-nés, mettre des gouttes dans les yeux, porter des médicaments aux mères qui venaient d'accoucher, etc. etc. Donc j'ai rempli, c'est ce qu'on appelait l'AMG, ça s'appelait l'assistance médicale gratuite. C'était une branche de mon activité, donc. Et donc on assumait un petit peu la santé de ces gens-là, quoi. Hein.
Parce que vous êtes libéré en 62, donc d'une part, à la sortie des OR, vous choisissez l'Algérie, mais après être libéré en avril 62, là vous décidez de rester en Algérie, bien entendu.
Oui, alors en 62, je me suis retrouvé un petit peu comme tout le monde. Bon, là, je terminais donc mes 29 ou 30 mois de service militaire. Je n'avais pas d'argent, hein, je n'avais pas un sou pour m'installer en France. Et quand je me suis retrouvé à Nice avec les rapatriés, les médecins qui avaient débarqué à Nice en 62, on m'a dit, ben, vous disposez de combien ? Alors j'ai dit, ben, moi j'ai pas un sou, je termine mon service militaire. On m'a dit, oh alors il faut monter dans le Nord, allez vous installer dans le Nord, il y a de la place pour des médecins comme vous. Moi, le Nord, la grisaille, la pluie, le froid, c'était pas pour moi, je voulais le soleil et la mer. On parlait des accords d'Évian, il était question de rester 4 ans à Alger. J'ai dit, ben, je vais miser sur Alger. Alger sera la dernière ville où il y aura encore le plus de Français. Je vais rester à Alger. Eh bien, si ça ne dure que 4 ans, ben on reverra le problème dans 4 ans. Et je suis redescendu sur... J'ai laissé d'ailleurs ma femme en France, et puis je suis redescendu à Alger pour m'installer, où j'ai eu la chance de trouver j'ai pris la suite de mon cousin, qui s'appelait Georges Amsalem. Sa plaque, c'était G. Amsalem. Je n'ai même pas changé sa plaque. J'ai repris son cabinet. Il était pédiatre. J'avais fait un peu de pédiatrie. J'avais commencé mes études de pédiatrie, donc je me suis installé comme médecin généraliste avec une tendance un peu de pédiatre, voilà. Et donc j'ai ouvert son cabinet le 1er septembre ou quelque chose comme ça, 1er septembre 1962.
C'est justement au lendemain
tout de suite,
la proclamation de l'indépendance.
Mais oui, bien sûr.
Il faut rappeler ça. Mais il y a des troubles à ce moment-là. Vous allez à contre-courant.
Je vais à contre-courant et je me suis dit, puisque tout le monde s'en va, moi je reste. Ben oui, c'était un choix que j'ai fait, hein. Je savais que je prenais peut-être des risques, je ne savais pas ce que l'avenir m'allait me réserver. Hein. C'est un peu une loterie, quoi. J'ai joué, hein, un coup de poker, disons. Hein. J'ai choisi de rester. Et en fait, je me suis rendu compte après que pas mal de médecins français, quelques médecins français étaient restés à Alger. J'ai eu mon copain, le docteur Barcelo, le docteur Colonna, etc., qui était à Alger, qui avait des postes importants dans les hôpitaux et tout. Donc, je n'étais pas le seul, hein. J'étais pas le seul médecin français à Alger. Mais enfin, c'est vrai qu'il y en restait, il en restait plus beaucoup.
Alors, comment ça se passe par rapport à la population algérienne qui est
nouvellement... La population algérienne était très contente de revenir chez le docteur Amsalem, même si c'était que le cousin. Hein, bon, donc toute la clientèle que mon cousin avait drainée vers le champ de manœuvre est venue carrément dans le cabinet spontanément. Et du jour au lendemain, je me suis trouvé avec une clientèle fabuleuse. En 6 mois, j'ai fait le plein de ma clientèle. Clientèle, bon, sûre, à 90% musulmane. Hein, bon, parce que restait très peu de Français, donc il faut bien dire les choses. Hein. Mais comme de toute façon je parlais l'arabe et que je baragouinais quelques mots de kabyle, donc j'ai eu aucune difficulté, quoi. Hein. Voilà.
Et pourtant, il se passe de gros nuages.
Oui, il y a eu des nuages en Algérie. L'indépendance était déjà passée, puisqu'elle s'est passée pendant la période à la fin de mon service militaire, donc... C'était avril, mai, hein, quelque chose comme ça, mai, juin. Donc, c'était la période de transition. Mais je me suis dit, si je reste en Algérie, si je ne pars pas maintenant, peut-être que j'aurai des possibilités de rester. Tandis que si je m'en vais et que je reviens dans un an ou dans 2 ans, je ne sais pas comment les choses auraient évolué. Voilà.
Bien évidemment. Face au régime algérien, alors c'est un régime socialiste, là, quelle est votre situation matérielle ?
Eh bien là, c'était très simple, on devait travailler la matinée pour l'État, moyennant quoi on était autorisé à garder son cabinet l'après-midi. Donc les consultations étaient tarifées, donc, et on donnait, sur un carnet à souche, on donnait un ticket chaque fois que l'on faisait une consultation. Donc c'était assez bien organisé. Le matin, je travaillais à la MGEN, à la Mutuelle de l'Éducation Nationale, où j'avais une consultation de pédiatre, donc je faisais 20 gosses tous les matins à examiner. Donc ça, c'était pour l'État. Et l'après-midi, j'allais à mon cabinet à 2h30 et j'ouvrais mon cabinet où je faisais de la clientèle privée jusqu'à 19h et puis quelques visites après, bien sûr.
Donc vous circulez dans...
Absolument librement, j'ai eu aucun problème. J'ai été même un petit peu privilégié parce que, étant donné qu'il y avait il restait peu de médecins généralistes, on me demandait d'être le médecin contrôleur des grosses sociétés pour l'absentéisme. On m'a demandé d'être médecin d'Air France, on m'a demandé d'être médecin des Nations Unies, etc. Donc j'ai cumulé un tas d'emplois et ça a été merveilleusement enrichissant pour moi dans tous les domaines. Hein.
C'est une expérience énorme.
Ah, une expérience fabuleuse. Et je dis toujours, mais tout ce que j'ai appris, je l'ai appris là-bas, sur place. Hein.
Vous êtes également médecin légiste.
J'ai été médecin légiste.
Oui, ça mérite d'être raconté. Oui, voilà.
Ça, j'ai été aussi médecin légiste. J'étais médecin au tribunal. J'ai travaillé au début avec un médecin, le docteur Demb, qui est parti. Et puis après, c'est moi qui suis resté. J'ai formé des médecins légistes algériens. Voilà.
Mais cette expérience que vous avez, c'est-à-dire vous circulez en Algérie, etc., vous en retirez quoi aujourd'hui, le sentiment? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous partez en 77.
Moi, je suis parti en 77 pour des raisons strictement personnelles, individuelles. J'avais un grand garçon qui avait besoin de faire des études. Avec ma femme, ça battait un petit peu de l'aile sur le plan sentimental. Donc, on est parti un petit peu contraint et forcé, j'allais dire, hein, parce que... Je pensais que c'était peut-être mieux de partir à ce moment-là. Voilà. Mais mes 4 ans s'étaient transformés en 15 ans, donc je trouvais que j'avais largement fait un temps honorable en Algérie, quoi. Hein. Et je répète, pendant toute cette période, j'ai été un petit peu privilégié. C'est pour ça que mon témoignage ne sera pas tout à fait impartial. Ce sera un témoignage de quelqu'un qui a été un petit peu protégé et... Oui, protégé, je crois que c'est le mot, protégé, puisque même pendant les événements, quand il y a eu des événements, la guerre des 6 jours, la guerre d'Israël, etc., on venait me demander, on me disait, vous n'avez pas d'ennui, docteur, etc. C'était les magistrats qui me posaient cette question, comme je soignais les magistrats, etc. Donc j'avais une position un petit peu privilégiée, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà.
Face aux événements aussi, vous avez ce sentiment, tous les événements qui sont produits, j'entends là, ceux de 62, au moment de l'indépendance, parce qu'il y a eu des massacres à Oran, par exemple.
Il y a eu des massacres à Oran. Ben, là, on était peut-être en France à ce moment-là. En juin 62, on était peut-être déjà en France. On était peut-être rentré, puisque c'est la période charnière où j'ai terminé le service militaire. C'est la période où on est resté peut-être en vacances un mois ou deux. Et là, on n'a pas vécu cette période de l'indépendance, hein, cette période agitée de l'indépendance. Hein. La pré-indépendance, moi, je l'ai connue à partir de septembre.
Et ensuite, les choses redeviennent très calmes.
Voilà, à Alger, les choses étaient très calmes, il n'y a eu aucun problème. Hein. On était installés dans le centre-ville, on avait un bel appartement, j'avais des voisins charmants, des gens très gentils, une concierge très gentille, j'ai toujours été accueilli... Il est vrai que pour moi, là, je n'ai jamais fait de politique. Tout le monde, moi, je soignais tout le monde. Il n'y a jamais eu le moindre problème avec qui que ce soit, quoi. Hein.
Vous avez des anecdotes là-dessus. Vous avez été, durant la guerre, obligé de soigner des membres du FLN.
Ah oui, bien sûr. J'ai été obligé, il m'est arrivé plus d'une fois, d'être appelé, obligé sur le plan éthique.
Oui, hein, voilà, hein, en tant que médecin, oui.
En tant que médecin. Donc moi, vous savez que dans le serment d'Hippocrate, on dit qu'on soignera tout le monde, et ça, sans distinction de race ou de religion, eh ben, je m'y suis tenu. Hein. Voilà. Donc ce qui fait que, il y a plus d'une fois, j'ai été appelé bon, à l'extérieur pour aller soigner dans des situations difficiles, des femmes qui avaient accouché, par exemple, ou des choses comme ça. Et on venait me chercher en voiture. On me disait, docteur, il faut venir. Ben, j'y allais, il n'y avait pas de problème. Hein. C'était comme ça. Puis j'estimais que même médecin militaire, je devais mes soins à tout le monde. Hein.
Vous avez regretté d'être parti de l'Algérie?
Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr que mon pain noir, je l'ai mangé. Et puis après, en France, c'est pas... Hein, et pas en Algérie, hein. Parce que quand on est rentré en 77, là, je peux vous dire que quand j'ai ouvert mon cabinet sur la Canebière, on n'attendait pas le docteur Amsalem sur la Canebière. Hein, on n'avait pas besoin de moi en France. Hein. Donc j'ai ouvert mon cabinet et pendant une semaine, la première semaine, je ne voyais qu'un seul client par jour. C'était un accident de travail à qui je faisais un pansement. Alors, vous savez, je vous dis, ça met le moral un peu à zéro. Hein. Voilà.
En Algérie, Il y avait de gros besoins au niveau de la médecine.
Il y avait de gros besoins de la médecine. Il y avait une relève qui était plus ou moins assumée par les médecins algériens qui avaient été formés à l'école française, hein, qui avaient tous des diplômes français. Donc, il y avait des gens très, très, très bien, très compétents, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Bon, ben, hein, voilà, hein, ils ont soigné du mieux qu'ils ont pu et avec les moyens dont ils disposaient. Hein.
Par rapport à la politique, aux hommes politiques, vous n'avez jamais eu de problème. Est-ce que vous avez des relations politiques ?
Non. Alors, je vais vous dire, je m'intéresse très peu à la politique. C'est honteux de dire ça, mais, la politique ne m'intéresse pas beaucoup. Je vis dans mes rêves, je vis dans mes bouquins, je vis dans ce que j'écris, je vis dans la musique. Et la politique, pour moi, c'est un petit peu... C'est très secondaire, allez, disons. On va dire que c'est secondaire.
Vous écrivez. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez commencé d'écrire ?
Oui, oui, j'ai écrit mes premières pièces de théâtre à l'âge de 14 ans, mes premières poésies à la même époque. Et j'ai toujours aimé écrire et mon rêve, c'était d'être un jour un écrivain. Hein. Mais on ne peut pas faire deux carrières en même temps. Bon, hein. J'ai choisi celle de médecin.
Les écrivains d'origine pied-noire qui vous intéressaient, qui vous ont intéressé, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous ont marqué ?
Non, je lisais les grands auteurs français, hein, à l'époque, ce qu'on m'avait appris à l'école. Hein. Je lisais ce qu'on m'avait appris. Les auteurs algériens eux-mêmes, je les connais peu. Je les connais de nom parce que après, plus ou moins, on a lu un petit peu. Mais enfin, Mouloud Feraoun, Kateb, etc. Enfin, tous ces gens-là. Mais je n'ai pas beaucoup lu de choses. Hein. Je n'ai pas une grosse culture sur la littérature algérienne, surtout après la guerre.
Mais elle insiste comme vous sur une certaine philosophie du bonheur.
J'essaye de prendre dans la vie ce qu'il y a de bon. C'est pour ça que j'essaye d'oublier très 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 vite ce qui est mauvais. Ce qui fait que finalement, vous n'avez que une mémoire tronquée. Hein, voilà.
Docteur Ansalem, un Algérien, si j'ose dire, Saint-Augustin, disait que la mémoire, c'est... Cette force de la mémoire, c'est moi-même, disait-il. Et là, vous avez abordé un peu ce thème. Et une citation me revient un peu à l'esprit, celle de Kateb Yassine, qui disait « Mais la mémoire, c'est aussi l'oubli ». C'est au fond une espèce de tri que l'on fait sur les bonnes et les mauvaises choses. Vis-à-vis de l'Algérie, votre sentiment, c'est que ce que vous avez conservé, ce sont les bons souvenirs.
Bien sûr. Bien sûr, je n'ai conservé que les bons souvenirs. Mais même si je cherche au fond de ma mémoire, je ne trouve pas de mauvais souvenirs. Voilà. C'est pour ça que ou bien l'oubli dont parlait Kateb Yassine a été plus fort que la mémoire profonde qui devait rester. Hein, et c'est l'oubli qui a prévalu. Il ne reste plus que l'oubli. Ou alors, j'ai été particulièrement chanceux de ne pas avoir d'événements dramatiques. Bon, il est vrai aussi qu'on était d'une famille modeste, on n'a pas souffert particulièrement de quoi que ce soit, on n'a pas été des colons qui ont perdu des propriétés immenses, etc. On ne s'est pas retrouvé dans la misère du jour au lendemain. Mon père était un simple petit gérant de commerce, il vendait des godasses, donc bon, c'est vrai que on n'a jamais vécu sur un train de vie fabuleux, donc on a... Si vous voulez, l'indépendance de l'Algérie n'a pas changé quoi que ce soit dans nos habitudes, si ce n'est le départ de mes parents de Mostaganem, quoi, c'est tout. Hein. On n'a rien perdu de... Hein. Mais donc, on n'a pas eu d'événements dramatiques, on a eu la chance de ne pas avoir de gens morts dans notre famille, on n'a pas eu de... Je dis ça, et encore, bon, ben, j'ai bien eu un frère qui était militaire et qui est mort pendant la guerre d'Algérie, mais... On se demande encore si vraiment son hélicoptère a été abattu ou pas, ou si c'était un accident. Vous savez que dans l'armée, on ne peut pas savoir comment les choses se passent. Il était militaire, il est mort pendant la guerre. Il a été décoré, soi-disant, pour une mission qu'il avait remplie. Son hélicoptère aurait été abattu, paraît-il, par des félagas, mais je ne crois pas trop à cette thèse, quoi.
Vous venez de faire allusion avec en ce qui est, entre la mémoire profonde et la mémoire de surface. Donc on joue toujours là-dessus dans notre vie. Il y a pourtant aujourd'hui toute une réflexion qui est menée sur cette mémoire concernant l'Algérie. Et on sent apparaître, de part et d'autre de la Méditerranée, beaucoup de douleurs sur le passé, sur la façon dont les choses sont vécues, notamment par les immigrés en France. Et je vous pose une simple question. C'est quelque chose de factice pour vous? Est-ce que les gens n'arrivent pas à se réconcilier avec eux-mêmes, ne font pas la part des choses?
Je crois que certains ont dû garder les événements dramatiques en mémoire de façon plus vivace, et qu'il y a peut-être une difficulté à pardonner de part ou d'autre. Hein. Je ne sais pas quelle est la part qui revient à chacun. Je ne peux pas dire c'est de la faute d'un tel. Le monde n'est jamais coupé en deux. Il y a les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Il y a eu des mauvais de chaque côté. Il y a eu des exactions aussi bien de l'OS que du FLN. Donc je ne peux pas dire qui a été bon, qui a été mauvais. Hein. C'est difficile. Je crois que c'est quelque chose que l'on... Qu'il y ait de la douleur dans certaines familles, bien sûr, quand il y a eu des morts, quand il y a eu des choses graves, des événements dramatiques, on peut garder en mémoire ces événements-là, mais disons que ce n'est pas ma nature, moi, de garder ce genre d'événements en mémoire. J'essaye d'oublier le plus vite possible. Hein. Voilà. Donc, ce qui fait que je n'ai pas conscience, je crois que si les gens veulent garder le mauvais en mémoire, c'est de leur fait, et que peut-être qu'ils ont tort. Il faut peut-être essayer d'oublier tout ça et de dire, bon, ben, faisons table rase de ce qui a existé, essayons de voir vers l'avenir une vie meilleure, et pas toujours ce qui s'est passé. Tu m'as fait, vous savez, des histoires de gosses, ouais, tu m'as fait ceci, moi je t'ai fait ceci. Et je crois qu'il faut passer ce stade-là.
Mais on en est en plein, on est en plein là-dedans actuellement.
On en est là-dedans, alors oui, bien sûr. Mais il faut savoir que de part et d'autre, il y a eu des exactions, de part et d'autre, il y a eu des abus, de part et d'autre, il y a eu des crimes, de part et d'autre, il y a eu des... On ne peut pas dire c'est plus la faute d'un tel que d'un tel, hein. C'est difficile de dire ça. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon sentiment. J'arriverai pas à vous dire quel est le pourcentage qui revient aux Français, quel est le pourcentage qui revient au FLN. Hein. Il y a eu cette parenthèse de l'OAS qui a été très, 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 très mauvaise.
Vous insistez souvent là-dessus, oui.
Oui, parce que cette parenthèse de l'OAS a... Enfin, vous savez que leur devise, c'était la politique de la terre brûlée, c'était le cercueil ou la valise, donc il fallait tout est partir en laissant le plus de ruines possible. Donc ça n'a pas été une bonne chose. Hein. Je crois que ça a été une parenthèse qui a fait beaucoup de mal entre les deux parties de la population.
C'était aux antipodes de ce que vous pouviez penser vous-même.
Oui, moi je ne suis pas du tout... je n'ai jamais été ni partisan de l'OAS, ni je n'ai jamais accepté cette chose-là, quoi. Je trouvais que c'était des morts inutiles, quoi. Puisque je disais toujours, tôt ou tard, on s'embrassera. Donc, regardez les Allemands, hein, les Allemands et les Français, Dieu sait ils ont fait des morts de chaque côté, etc. Ils se sont tapés dessus, ils se sont détestés pendant des années.
Des siècles.
Et on s'embrasse maintenant sur la bouche. Bon, ben, c'est comme ça, je crois que, hein, il faut savoir, un jour ou l'autre, peut-être, essuyer ses lèvres et s'embrasser.
C'est-à-dire que, quand vous parlez de, je dirais pas de bons souvenirs, mais s'il fallait employer cette expression, c'est aussi parce que vous les avez partagés avec des gens.
Mais bien sûr, moi j'ai toujours eu beaucoup d'amis des deux côtés, enfin aussi bien d'un côté que de l'autre. J'ai toujours eu des clients qui étaient merveilleux, qui me soignaient, qui m'appelaient, qui me disaient « Docteur, vous n'allez pas nous laisser tomber, vous n'allez pas partir, etc. » Donc j'ai eu des relations extrêmement agréables, hein, et il ne se passait pas une semaine sans que je sois... invité à un mariage, un baptême, une fête. J'avais droit au gâteau de la concierge pour l'Aïd, j'avais droit au gâteau de la concierge pour la Choura. Enfin, j'avais toujours un certain nombre de gâteries de la part des gens. Donc je pense qu'ils m'ont apprécié comme je les ai appréciés. Je ne peux pas oublier tout ça, quoi.
Ce que vous nous apprenez, c'est que lorsqu'on revisite la mémoire des relations entre la France et l'Algérie, pour employer une grande phrase, ce serait peut-être aussi de voir le bon côté des choses.
Bien sûr. Essayons de ne plus garder En mémoire, c'est les mauvais moments et ces mauvaises choses. Il faut se tourner vers l'avenir et dire, bon, ben maintenant, il y a peut-être un travail de reconstruction à faire. Il faut reconstruire, s'embrasser et se reconstruire. Parce que je crois que c'est positif pour tout le monde. C'est pas dans la haine et les souvenirs, que des souvenirs haineux, que l'on peut avancer. Voilà.
Vous n'avez pas le sentiment que on a tous un peu une difficulté pour embrasser cette philosophie du bonheur? Elle nous fait peut-être un peu peur.
Mais pourtant, on sera bien obligé d'y arriver. Moi, je crois qu'on y arrivera. Je crois à la bonté intrinsèque de l'humanité. Comme je crois très bien qu'il y aura la paix un jour entre les Palestiniens et les Israéliens, et que tout ça, ça va s'arranger. Moi, je suis peut-être un optimiste né. Voilà, c'est peut-être mon côté guéluron qui fait ça.
Pourtant, avec l'Algérie, ça a été cruel, douloureux.
Oui, ça a été cruel, ça a été douloureux, ça a été de part et d'autre, ça a été cruel et douloureux. Il faut bien dire les choses comme elles sont, de part et d'autre, ça a été cruel et douloureux. Mais on peut essayer de ne plus regarder derrière, mais regarder devant, quoi. Dire, bon, ben maintenant, il faut... Parce que vous parliez des émigrés qui sont arrivés en France, mais il y a eu des pieds noirs aussi qui sont arrivés émigrés, qui sont partis du jour au lendemain avec leurs valises à la main, en abandonnant et leurs biens, et leurs terres, et leur pays. Parce que imaginez demain qu'on dise à des Alsaciens, vous allez prendre votre valise, vous allez partir, ou à des Bretons, vous allez prendre votre valise et vous allez aller dans un pays que vous ne connaissez pas. Ce serait le même drame, Ce serait le même drame que celui qu'ont connu les pieds noirs, C'est un drame de déracinement, et le déracinement, c'est quelque chose de terrible. C'est vrai, mais bon, est-ce qu'il faut pour autant toute la vie se regarder le nombril et pleurer sur son sort voilà. C'est ce que je dis, moi.
C'est curieux parce que lorsqu'on entend des débats, que ce soit à la télévision, lorsqu'on voit certains documentaires, c'est pas ça qui domine souvent, malheureusement. C'est une vision assez bloquée, en quelque sorte, assez figée de ce qui s'est passé. Une certaine douleur, en fin de compte, une certaine souffrance.
De quel côté? De la part de qui?
Des deux côtés, moi, je crois.
Oui. Ah, je suis d'accord, il y a une souffrance, une douleur des deux côtés. Mais faut-il pour autant vivre avec le souvenir ineffaçable de cette douleur,
C'est le médecin ou le philosophe?
C'est le médecin, le médecin philosophe. Disons qu'un médecin, c'est un peu un philosophe, forcément. Vous savez, je veux dire... le rôle du médecin, c'est de faire espérer, de faire croire que là, qu'on va guérir de sa maladie, qu'on va survivre à son mal, qu'on va. Donc, je crois que c'est la philosophie du médecin, de dire que les choses vont s'arranger, tout va aller mieux.
On veut dire que les hommes peuvent être soignés.
Les hommes doivent se soigner et peuvent guérir de beaucoup de choses, de beaucoup de maux.
En tant que pied noir, c'est une position qui est, je ne dirais pas qui est plus facile, mais enfin, avec le soleil, avec la mer, avec ce décor qui existait en Algérie, c'est peut-être une insulte aux dieux que de désespérer, c'est un peu ça.
C'est Camus qui avait dit que les... Au printemps, Tipaza est habité par les dieux et les dieux parlent au soleil. C'était merveilleux.
Docteur Ansanem, vous revenez donc en France en 77, vous venez plutôt, vous installez à Marseille en 77, vous allez exercer la médecine durant pratiquement 20 ans.
22 ans.
22 ans. L'image de l'Algérie va-t-elle changer? Elle reste la même? Les patients que vous avez, les contacts que vous pouvez entretenir avec des personnes autour de vous, vous donnent l'idée, le sentiment que les gens ne pensent plus de la même manière, ont perdu ses souvenirs de l'Algérie, les conservent. Comment vivez-vous ça? Ces 20 ans d'exercice de la médecine sont différents en France de ceux qu'ils étaient en Algérie.
Je dirais oui et non. Oui, parce que nous n'étions plus dans le même pays, nous n'avions plus le même contexte politique derrière. Et non, parce que finalement, je suis parti médecin, je suis rentré médecin. J'ai ouvert un cabinet dans un quartier populaire de Marseille. J'ai eu une clientèle à 60% d'origine maghrébine ou nord-africaine, disons. Donc, j'étais installé dans le quartier pas loin de Belzunce. Donc, j'ai eu une clientèle qui n'a pas changé avec celle que j'avais en Algérie. Donc, pour moi, la situation était strictement la même. Je parlais un peu l'arabe, je baragouinais un peu le kabyle. Donc, j'ai pu très bien refaire une clientèle. Ça n'a pas été aussi rapide qu'en Algérie, bien sûr. Ça a été beaucoup plus lent. On ne m'attendait pas sur la Canebière. J'ai eu beaucoup plus de difficultés, hein. Mais j'ai gardé le même genre de clientèle. Quant au rapport avec les clients, vous savez bien que quand on va chez le médecin, ben on est malade et puis on attend tout du médecin, on veut qu'il vous soigne, donc on est un petit peu en état d'infériorité, personne n'est venu, le verbe haut, m'insultant ou quoi que ce soit, au contraire, les gens étaient toujours très gentils et ils attendaient beaucoup du docteur que j'étais, quoi. Hein. Et j'ai essayé de les soigner du mieux que j'ai pu, voilà.
Hein. Mais en tant que médecin, est-ce que vous avez perçu des difficultés? Il y a des problèmes, par exemple, quand on parle d'identité.
J'avoue que personnellement, sur le plan professionnel, non. Hein. J'ai constaté plutôt une modification des idées peut-être des opinions des jeunes sur la France. Voilà. C'est peut-être dans la clientèle la plus jeune que j'ai vu le plus de changements s'opérer. Parce que... Était-ce peut-être l'exemple de leurs parents qui avaient beaucoup souffert quand ils étaient venus en France? Je pense aux Harkis, je pense à tous ces gens-là qui ont peut-être inculqué quelques sentiments anti-français à leurs enfants. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose. Mais toujours est-il que c'est dans les générations les plus jeunes que l'on trouve peut-être ce sentiment, cette impression de rupture, de fêlure, de fossé, de gouffre entre les générations. Et c'est chez les jeunes que je l'ai ressenti, voilà. Hein. Cette appartenance à l'Algérie, à ce nationalisme un peu exacerbé des jeunes qui n'hésitent pas d'ailleurs à dire qu'ils sont plus algériens que français, hein, pour certains, ce qui se comprend peut-être parfaitement, si les parents ont vécu des choses dramatiques, mais... Peut-être qu'il y a eu aussi de la part des Français, bon, un mauvais accueil, il y a eu aussi des fautes, sûrement, hein, de nos gouvernants vis-à-vis de certaines populations, ça c'est sûr. Hein. Je pense toujours aux Harkis, hein, ça c'est. Hein. Voilà. Donc je ne sais pas trop si ça a été plutôt la façon dont on a élevé ces jeunes et dont ils ont évolué dans notre société, mais ce n'était pas du fait des pieds noirs en Algérie, je pense que ce n'était pas ça. Hein. Eux, ils ne connaissent pas l'Algérie. Ces jeunes ne connaissent pas l'Algérie. Hein, ils en ont entendu parler. Ils savent qu'ils sont d'origine algérienne, etc. Ou qu'ils sont peut-être nés là-bas et venus très jeunes en France. Et voilà, donc ils n'ont pas connu, pour la plupart, ils n'ont pas connu les événements d'Algérie. Ils n'ont pas connu la guerre d'Algérie. Hein, pour ceux qui ont 20 ans maintenant n'ont pas connu la guerre d'Algérie. Hein.
Oui, c'est-à-dire que maintenant, il y a un rapport direct avec la France.
Voilà, donc c'est plutôt un mauvais rapport avec la France.
Ça tient donc, oui, peut-être, oui, sans doute dépend, mais pas seulement des Harkis, des gens qui travaillaient,
qui ont peut-être
des situations difficiles.
Oui.
Et les enfants n'arrivent pas toujours à trouver du travail. C'est un peu le sentiment que nous avons, nous, interviewant des gens.
Bien sûr.
Et ce qui fait qu'il y a une image un peu faussée de l'Algérie en même temps.
Bien sûr. Je pense que les jeunes ne connaissent pas la vraie histoire de l'Algérie, les vraies relations, les relations d'amour entre les populations pieds noirs et les populations algériennes. Il y a eu vraiment une histoire d'amour, quoi, c'est sûr. Hein. Il n'y a qu'à voir ce que Camus a écrit, hein, sur l'Algérie. Hein. Il a écrit des choses merveilleuses. Il aimait l'Algérie. Hein. On ne peut pas lui reprocher de ne pas aimer l'Algérie. Hein.
Mais il y a les plus noirs qui veulent retourner en Algérie aussi.
Mais bien sûr, mais je pense que à 90%, hein, si vous proposiez aux pieds noirs de les réinstaller en Algérie dans un climat de paix, bien sûr, hein, ça s'entend, bah, ils seraient d'accord pour retourner vivre en Algérie. Hein. Je ne connais personne qui m'ait dit « Attendez, moi, l'Algérie, ça a été mauvais pour moi ». Jamais, jamais, jamais j'ai entendu dire ça.
De la part des Pieds Noirs.
De la part des Pieds Noirs, bien sûr. Ils ont mal vécu le départ. Ils ont voulu peut-être à la France d'avoir été obligés de partir de façon précipitée en abandonnant leurs biens. Mais c'est pas sur le compte des Algériens eux-mêmes qu'ils mettent cette chose-là, quoi.
Vous êtes en train de dire que le sentiment de haine...
Il n'y a pas de haine. Moi, je crois qu'il n'y a pas de haine du côté Pieds Noirs. Il y a peut-être un peu d'amertume, c'est tout, d'avoir changé de situation, d'avoir rétrogradé un peu dans le rôle, dans l'échelle sociale, pour certains, peut-être. Hein? Ou alors ceux qui ont vraiment peut-être perdu de très très grosses choses, beaucoup de familles, ou qui ont perdu des biens importants, etc. Bon, ceux-là ont peut-être des raisons valables d'en vouloir, mais pour l'immense majorité des gens, il ne faut pas oublier qu'il y avait des familles, les vrais colons, les vrais propriétaires terriens, c'était quoi, 10, 20 familles peut-être, et tout le reste, c'était des petits commerçants, c'était des gens qui, des fonctionnaires, c'était des gens qui travaillaient comme vous et moi, et puis voilà.
Ah, mais il y a des chiffres, c'est moins de 10% de la population.
Voilà. Donc, c'est 90% de la population qui était comme tout le monde. Ben, ces gens-là n'ont pas de sentiments particulièrement amers vis-à-vis des populations algériennes, donc des populations autochtones, quoi. Donc, au contraire, je pense qu'ils ont tous gardé. Il n'y a qu'à voir comment ils sont accueillis quand ils retournent en voyage dans leur ville de natale, quand vous avez des... J'ai vu combien de documentaires là-dessus sur les Pieds Noirs qui retournent. Ils revoient la maison où ils sont nés, etc. Ils versent des larmes, hein, et puis ils sont accueillis à bras ouverts. Attendez, je crois qu'on se fait une image fausse de cette relation entre l'Algérie et la France. Hein. On se fait une image fausse. Hein.
Mais alors cette image fausse est dans la tête des jeunes immigrés.
Je crois qu'elle est entretenue quelque part. Peut-être par qui, je ne sais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je pense qu'elle est un peu entretenue. Je ne sais pas pourquoi. Hein, ne me demandez pas, je ne suis pas dans le secret des dieux.
D'accord. Donc, il y a un hiatus entre... Ce que vous dites, ça signifie qu'il y a un hiatus entre ce que pensent certains jeunes,
oui,
et la réalité des sentiments de la majorité des Pieds Noirs et des Algériens.
Alors,
qui accueillent les Pieds Noirs.
Les Algériens de ma génération, qui ont mon âge, qui ont 70 ans maintenant, n'ont pas gardé, à mon avis, je crois, de haine vis-à-vis des Pieds Noirs. Hein. Ceux qui ont gardé la haine, c'est ceux qui ont été ou qui sont rapatriés, qui sont rentrés dans des conditions difficiles, hein, ou les plus jeunes. Mais il y a des générations, je suis sûr, où, avec lesquelles on peut discuter. Hein.
Mais vous êtes en train de dire que tous les discours politiques qu'on entend aujourd'hui sont un petit peu un porte-à-faux.
Bien sûr, l'histoire du pardon, de demander pardon et tout, etc., tout ça, ça crée des malaises, ça crée des tensions, ça crée des problèmes qui ne devraient pas exister, voilà, à mon avis.
Hein? Toujours avec votre sentiment, il faut tourner la page.
Il faut tourner la page, ça, c'est sûr qu'il faut tourner la page. Hein, je crois qu'il faut travailler la main dans la main, dire bon ben voilà, l'Algérie a besoin de ceci, elle a besoin de cela, il faut investir peut-être en Algérie, il faut que les sociétés aillent investir en Algérie si c'était nécessaire, il faut leur donner la possibilité de devenir un beau pays, et puis il n'y a pas de raison. Hein. Je pense qu'on est partenaire, on a toujours été fiancés avec l'Algérie. Hein. La France et l'Algérie ont été des amants. Hein. Hein. Des amants, ouais, terribles, mais des amants.
Passionnés, oui. Ouais. Passionnés. Mais ça signifie aussi que, au fond, ce que vous dites, c'est que ces jeunes, peut-être, ont un mauvais sentiment de leur propre pays d'origine. Ils n'y croient plus.
Ça, je ne sais pas. Il faudrait leur poser la question à eux, à ces jeunes.
Ah, c'est un peu... Quelquefois, le sentiment qu'on a, il y a un manque de courage, si j'ose dire, à l'écart de leur propre pays. Il y a un certain dégoût. La situation est difficile en Algérie.
Oui.
Elle est difficile.
C'est sûr, parce qu'on se demande si la vie était plus facile en Algérie, il resterait en Algérie. Donc s'il vient en France, c'est que la vie est difficile. Hein, attendez. Hein? Alors, je ne crois pas que ce soit par revendication qu'il vienne vivre en Algérie, hein, qu'il vienne vivre en France. On ne vient pas vivre en France et après traîner dans les cités, etc., etc., sans travail. Si on avait une vie meilleure ailleurs, hein. Je crois qu'il faut être un peu réaliste quand même.
Il faudrait investir sur l'avenir.
Je crois qu'il faut investir sur l'avenir. Et là, le jour où quelqu'un prendra, que ce soit du côté algérien ou du côté français, le jour où on prendra la décision d'essayer de tourner la page et de faire quelque chose en partenariat, je dis, ce sera plus un département français, ce sera plus une conquête, ce sera plus une histoire de territorialité qui appartient à l'un ou à l'autre, mais le jour où on fera ça en partenariat volontaire, hein, je veux dire qu'on soit d'accord pour faire ce partenariat des deux côtés, les choses devraient s'arranger. Il n'y a pas de raison que ça ne s'arrange pas. Hein. Moi, je ne vois pas pourquoi ça ne s'arrangerait pas.
L'Algérie a de nombreux atouts.
L'Algérie a des atouts. La France a besoin de l'Algérie, il faut bien dire les choses. Elle a besoin de gaz, elle a besoin de trucs comme ça. Donc, je pense qu'il y a des relations qui doivent se créer, qui doivent se mettre en place. Il y a des céréales en Algérie, il y a des agrumes en Algérie, il y a des tas de choses qu'ils peuvent exploiter. Et je ne comprends pas pourquoi, sans parler des mines. Hein. Il y a des mines aussi dans le sud algérien. Hein. Donc, je pense que ça devrait, avec les gens de bonne volonté, maintenant, est-ce qu'il y a des gens de bonne volonté de part et d'autre? Voilà, c'est ça. Hein,
enfin, le problème est strictement politique.
À mon avis, c'est politique. C'est politique, c'est politisé, c'est entretenu, à mon avis. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Hein,
oui, ça sort du débat, à la limite. Ça. C'est-à-dire qu'on s'affronte à des obstacles politiques, mais en réalité, les choses, il y a un potentiel, les choses restent possibles.
Bien sûr. Et moi, je trouve que l'intégration se fait pas assez vite. Hein. Alors, peut-être aussi le fait de ne plus faire de service militaire, ça aussi, c'est peut-être un handicap, parce que je trouve que quand on prenait les gens à 20 ans et qu'on leur apprenait qu'il fallait respecter le drapeau français, etc., c'était une bonne chose. Moi, je trouve, certains faisaient carrière dans l'armée, certains trouvaient des métiers et restaient dans l'armée. Hein, et certains appréciaient l'armée, justement, parce que c'était un cadre un peu rigide, ils étaient structurés, ils étaient un petit peu encadrés. Et tout ça, ça n'existe plus. Hein.
Au fond, la situation des jeunes immigrés, ce que vous dites, ça tombe mal, compte tenu d'un certain contexte.
Moi, je pense que c'est plutôt vers les jeunes qu'on devrait se tourner. Il devrait y avoir une éducation des jeunes, faite peut-être par les anciens, hein, faite par les anciens Algériens, etc. Enfin, il y a quelque chose à faire, à mon sens, de ce côté-là, pour effacer justement toute cette douleur.
C'est curieux parce que cette douleur de la part chez les jeunes, c'est eux qui ressentent une douleur comme s'ils avaient hérité d'une douleur que ne ressentent pas vraiment leurs parents.
Oui, je suis convaincu.
C'est terrible.
C'est terrible. Alors est-ce que c'est peut-être parce qu'on les a entretenus dans cette douleur, hein, on les a entretenus dans ce sentiment d'être les parias, les enfants pauvres, etc., etc. Enfin, d'avoir été les victimes, en quelque sorte, des mésaventures de leurs parents. Hein. Et en fait, bon, ben, je crois qu'il faut qu'ils se prennent en charge et puis qu'ils estiment que, hein, la page est tournée, il faut qu'ils s'assument, il faut qu'ils rentrent dans la société. Je vous dis, j'étais aux États-Unis cet été, le nombre de Noirs qui travaillent dans toutes les administrations, surtout j'étais à Philadelphie, c'est une ville où il y a 90% de la population est noire et travaille partout, vous les voyez partout, et ils sont très fiers d'être américains, et ils sont pas du tout, il n'y a aucun sentiment de revendication. Et je trouve que c'est dommage, ça n'existe pas en France. Quoi.
Je vais vous poser une dernière question sur, en fait, est-ce que vous êtes retourné vous-même en Algérie là? Récemment, non.
Je me souviens plus si je suis retourné depuis
77.
Depuis 77, suis-je retourné? Je ne sais plus si je suis retourné une fois. Oui, j'ai dû retourner une fois, je pense. Mais si vous voulez, moi, je n'avais pas le besoin de retourner en Algérie. Je n'ai pas éprouvé ce besoin qu'ont les pieds noirs. Les pieds noirs qui sont partis en 62 avec les valises ou sans valises ou pieds nus devant des hordes qui allaient les massacrer, etc. Donc, quand ils sont partis comme ça, ils ont gardé, si vous voulez, ils avaient gardé des liens affectifs très forts et ils n'ont pas coupé le cordon ombilical. Ils sont rentrés en France avec un regret de ne pas avoir coupé le cordon ombilical. Donc ils ont besoin, je crois que tous ces gens-là éprouvent le besoin de retourner en Algérie voir ce qui se passe. Moi, ce n'était pas pareil. Moi, je suis resté jusqu'en 77. Je suis rentré volontairement. J'ai décidé de rentrer en 77. Ce n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Hein, voilà.
Avec toujours ce sentiment de bonheur à l'égard
mais, de mais il est bien évident que je n'attends qu'une chose, c'est que les conditions soient bonnes pour retourner en Algérie, hein, ne serait-ce qu'en vacances. Hein, parce que j'ai quand même laissé un morceau de mon cœur en Algérie. Hein. Voilà.
Docteur Amsalem, je vous remercie.
Merci.
La Traversée. Une série d'émissions sur les relations entre la France et l'Algérie depuis 1954. Prochain rendez-vous sur les 3-8 de la Grenouille, le dimanche 4 février 2007 à 20h. Bonsoir. Mmh.